Depuis quelques jours, on voit les chiffres. Je regarde, par exemple, les plus récentes données en termes de nombre de personnes infectées, du nombre de décès, hospitalisations. On est tout près de 700. Aux soins intensifs, on est autour de 94. Et déjà, depuis quelques jours, il y a des médecins, des experts en santé publique qui se disent « Cette tendance-là sera pas vraiment... en tout cas, ça va être difficile de l'inverser. » Et donc, est-ce que c'est encore utile de penser, prévoir des rassemblements sans risque, ou en tout cas avec un minimum de risque, pour le temps des fêtes? Le Dr Fauci disait hier aux États-Unis, l'effet Thanksgiving, l'effet Noël et l'effet jour de l'an risquent de nous faire passer des mois de janvier et février assez difficiles. J'en parle avec notre microbiologiste et invité régulier, le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Bon, quand vous regardez ça, là, la combinaison des regroupements, des fêtes, la fin de l'année qui arrive, est-ce que c'est encore pensable de dire on va être capable de stopper ou d'inverser la tendance pour permettre ces regroupements?
Alors, c'est encore pensable, mais disons que nous sommes à la 11e heure, à la 59e minute. Il nous reste pas beaucoup de temps devant nous. Nous sommes donc le 1er décembre, alors il nous reste à peu près 24 jours pour inverser une tendance. Ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, le nombre de cas reste relativement stable, mais il a augmenté un petit peu ces derniers temps. Quand on commence à analyser plus en détail les chiffres, on voit que même si ce n'est pas le groupe qui a le plus de cas, le groupe des 70 ans et plus a connu une augmentation relativement importante en proportion, et c'est le groupe à risque, hein, parce que c'est le groupe qu'on risque d'hospitaliser, puis c'est le groupe aussi qui risque malheureusement d'avoir des décès. Donc, on sait que les groupes qui sont les plus atteints, ce sont les jeunes entre 10, disons, et à peu près 39 ans. Donc, on va mettre ce groupe d'âge-là comme en nombre absolu. Mais c'est aussi le groupe qui est le plus, je vous dirais, le plus nombreux dans la population québécoise en termes de nombre. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on est, disons, à la limite. Vous savez, il y a la science, il y a les incertitudes de la science, il y a la décision sociale. La médecine, c'est toujours un ensemble de biologie, de psychologie, puis de contexte social. Alors, il faut essayer de regarder qu'est-ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On va payer le prix au mois de janvier. C'est clair, c'est net. La seule chose, on s'était déjà parlé il y a plusieurs semaines de ça, on s'est dit le mois de janvier sera le mois probablement d'une troisième vague. Pourquoi? Parce qu'au mois de janvier, vous le savez, les urgences débordent toujours. Oublions la COVID, là. Tous les ans, il y a des urgences qui débordent au mois de janvier. Cette année, on aura probablement une petite année d'influenza, mais on aura quand même la COVID. Deuxièmement, le mois de janvier, c'est un mois aussi où cette année, on va avoir tous les snowbirds qui ne sont pas allés en Floride ou dans le sud, qui vont être au Québec, qui vont peut-être nécessiter des soins de santé. Troisièmement, on risque d'avoir tout un volet de santé mentale qui risque d'être beaucoup plus exacerbé cette année que les années précédentes. Alors, tout ça mis ensemble, on sait que le mois de janvier sera difficile. Donc, si on veut donner un cadeau à la population québécoise, il faut s'assurer qu'on soit prêt pour le mois de janvier en termes de tests, en termes de traçage, en termes de ressources humaines dans les institutions, en termes d'équipements médicaux, d'équipements de protection personnelle pour la COVID-19. Donc, c'est un choix de société qu'on fait. Et c'est sûr que si on dépasse, disons, si on dépassait le 2000 cas de façon quotidienne, il est clair qu'on serait dans une situation très inconfortable. Si on retombait à des niveaux plus bas, où la tendance commençait à s'inverser, on serait dans une situation où on pourrait se dire on est prêt à payer le prix. C'est vraiment ça. On est prêt à payer le prix. À quelles conditions?
Je vous écoute, Dr Weiss, et peu importe le message du gouvernement, ce que vous dites, dans le fond, c'est qu'une période comme Noël, comme celle du jour de l'an, de toute façon, c'est inévitable, il y en aura des rassemblements. Les gens vont se côtoyer beaucoup plus qu'en temps normal et que donc, quelque part en janvier, on va voir la facture arriver de ça.
Bien, tout à fait, parce que les gens vont se côtoyer quand même. Vous savez, au Québec, même si on dit que 85% de la population respecte les consignes de façon absolue, et que 15% de la population les respecte, on va dire, à degrés divers, mais 15% de la population du Québec, c'est pas loin d'à peu près 1,2 million de personnes. Et c'est beaucoup de monde. Donc 1,2 million de personnes, s'il y a des gens là-dedans qui ne respectent pas trop les consignes ici et là, ça peut faire assez de petites éclosions pour faire réaugmenter les cas. Alors même si sur 1,2 million de personnes, vous avez 1% de ces gens-là qui vont générer des cas additionnels, ben 1%, c'est 12 000 cas de plus. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Mais c'est pas beaucoup à l'échelle de 8,5 millions de personnes au Québec, mais c'est beaucoup à l'échelle d'un système de santé si on veut l'étirer au maximum. Donc la question, c'est que il faut regarder qu'est-ce qu'on veut faire, et on est tous au Québec un peu, je vous dirais, responsables de quels efforts nous allons faire pour maintenir le nombre de cas le plus bas possible. Maintenant, est-ce que les gens vont continuer de se réunir? Peu importe, là, il y a aussi cette possibilité. Il y a des gens qui risquent de se réunir, même si on leur disait de ne pas se réunir. On n'ira pas envoyer un agent de sécurité ou un policier dans chaque maison au Québec pour vérifier si tout le monde a respecté les règles. Donc, c'est une question vraiment de contrat social, de bienséance de la société, je dirais. Mais à partir de là, c'est clair que le nombre de cas qu'on a, le potentiel pour augmenter le nombre de cas au mois de janvier, ça va arriver de toutes les manières.
Je veux vous entendre sur les vaccins. Encore ce matin, là, il y a Pfizer qui a demandé des autorisations pour ce qui est de l'Europe. On voit que les 3-4 joueurs là, qui avancent tranquillement et même plutôt rapidement veulent obtenir ces approbations pour pouvoir amorcer la vaccination. Je demandais à M. Trudeau, il n'y a pas de date. Il a déjà dit qu'il fallait idéalement avoir vacciné 50% et plus de la population en septembre. À quel moment on peut dire que le vaccin, de façon collective, là, quel pourcentage de Canadiens doivent être vaccinés pour qu'il puisse jouer son rôle?
Bon, alors, la première chose, c'est sûr que si on vaccine les personnes âgées et les personnes à risque, l'avantage de faire ça et de commencer par ce groupe-là, c'est que c'est le groupe qu'on hospitalise et le groupe qui décède. Donc, si on veut avoir un impact sur diminuer les hospitalisations et diminuer les décès et les formes sévères de la maladie, il faut aller vacciner en premier lieu ce groupe d'âge-là. Donc, principalement, je vous dirais, les gens de 65 ans, 60 ans et plus, on va dire, c'est le groupe à les vacciner, mais les 80 et plus en priorité. Ensuite, ben, ce qu'il faudrait, c'est qu'une fois qu'on a vacciné ce groupe-là, il faut vacciner le plus possible la partie de la population qui va, disons, être celle qui va être essentielle à aller travailler sur place. Parce qu'on pourrait dire, ben, si vous êtes en télétravail, vous êtes chez vous, vous déplacez moins, vous avez moins de contact avec les autres, à ce moment-là, peut-être vous êtes moins à risque. Alors, il faudrait vacciner, par exemple, les gens qui ont des risques d'être avec d'autres personnes. Puis là, ben, ça peut être des gens qui sont les travailleurs de la santé, bien sûr. On a dit les travailleurs essentiels, mais ça peut être les gens à l'école, ça peut être... Donc, il y a tout un ensemble de groupes qu'on pourrait vacciner rapidement. Probablement qu'à partir du moment, vous savez, on a dit c'est quoi l'immunité de groupe avec la COVID, et puis on peut s'amuser à calculer ce qu'on appelle le chiffre, le R0. Probablement que si on atteint 70% d'immunité de groupe, on aura commencé à avoir une sérieuse coche et une sérieuse entaille dans la capacité du virus à causer du trouble. Moi, je vous dirais, on n'a pas besoin de vacciner 70% de la population pour arriver là, parce qu'il y a déjà un certain pourcentage qui a été malade. À ça s'ajoute le fait que probablement, si on diminue l'impact de la maladie chez le groupe très à risque des personnes âgées, on va avoir moins d'impact sur le système de santé. Donc, à partir du moment où on aura vacciné ces groupes-là et, disons, 40-50% de la population, on va avoir probablement un véritable impact sur la dissémination de la maladie. Ça ne voudra pas dire, par exemple, que les Canadiens pourraient commencer à voyager de par le monde,
non,
que la pandémie va être finie, etc., etc., parce qu'il y aura peut-être beaucoup de pays qui seront loin d'être à ce niveau, et on ne connaît pas encore la protection à long terme, etc., etc. Mais tout au moins, on pourra peut-être revenir à une vie quasiment plus normale, on va dire, au Canada.
En terminant, une question technique qui souvent m'est posée par les auditeurs. Ça prend combien de temps pour que le vaccin soit efficace après la vaccination?
C'est une excellente question. Habituellement, on dit entre 10 et 14 jours. Donc, rappelez-vous que comme c'est deux doses pour avoir la pleine efficacité, donc vous avez votre dose au jour 0, votre deuxième dose au jour 21. Il y a des gens qui vont répondre après la première dose, mais pour avoir la pleine efficacité de tout le monde, il faudrait que vous comptiez à peu près 10 jours après la deuxième dose, donc 21 plus 10 à peu près, 10 à 14, on dit, là vous devriez avoir le maximum d'immunité dans la population vaccinée.
Merci beaucoup, Dr Weiss. Bonne journée.
Vous aussi,
au revoir. Dr Carl Weiss, qui est microbiologiste. C'est important, ça, quand tu calcules le délai entre le moment où tu vaccines une personne et le moment, puis dans ce cas-là, deux doses, où le vaccin... donc devient efficace. On va aller retrouver Marc, évidemment, quelques petits problèmes ce matin.